France Inter.
L'écrivain, journaliste, scénariste et réalisateur Emmanuel Carrère montrait déjà son amour du style documentaire dans son premier livre en 82 consacré au cinéaste Werner Herzog. Avant que ses récits ne soient en majorité situés au croisement entre autofiction et journalisme ou entre autobiographie et essai, l'ancien chroniqueur judiciaire faisait aussi de la pure fiction. Et dans ses précoces amours littéraires, on trouve d'ailleurs Lovecraft, soit l'auteur d'un univers fantastique et imaginé contre le réel. Mais c'est à Philippe K. Dick que notre invité consacrera un portrait de papier sous le titre « Je suis vivant et vous êtes tous morts ». Vous pourriez affirmer qu'il s'agit aussi d'un écrivain de science-fiction, sauf que ce qu'a imaginé le paranoïaque ou très lucide Philippe K. Dick ressemble de plus en plus à la réalité d'aujourd'hui. L'adversaire, la classe de neige, la moustache, un roman russe, d'autres vies que la mienne, Limonov, le royaume, yoga, voici quelques-uns des titres figurant dans la remarquable bibliographie d'Emmanuel Carrère, qui a aussi suivi le procès des attentats du 13 novembre 2015, de septembre 21 à juin 22 pour l'Obs, chronique judiciaire rassemblée et publiée par POL sous le titre V13. Au cinéma, il a notamment adapté son propre roman La moustache, ainsi que Wistreham de la journaliste Florence Obna et vient de co-signer le scénario du Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, adaptation du roman de Giuliano D'Ampoli. Il publie cette rentrée l'ouvrage Kolkhoz, qui s'ouvre sur le décès de sa mère, l'historienne de l'Union soviétique et ancienne secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos, et s'élargit vertigineusement à tout un arbre généalogique. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Cette introduction était très très longue, je me suis ennuyée moi-même, pardonnez-moi. Bonsoir Emmanuel Carrère.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Quelle est la dernière chose qui m'a enthousiasmé? Je vais parler de livres. Il se trouve qu'on m'a demandé de faire une préface pour un livre de Richard Kapuscinski, le grand journaliste, écrivain polonais. Et je les ai tous lus, le livre de Kapuscinski, le livre sur le prodigieux qu'il a écrit sur la chute du Shah d'Iran, sur la chute du Négus à Élysée l'Acier, sur toutes les guerres de décolonisation qu'il a racontées, et là celui-là c'est le livre dans lequel il raconte la fin de l'Union soviétique, qui s'appelle Imperium. Donc je me suis mis à relire ça, et il m'aurait peut-être suffi pour écrire quelques feuillets. Et en fait, je suis en train de relire tous les livres de Kapuscinski. En plus, en ce moment, je me balade un peu. Enfin, je suis pas dans un moment où je peux vraiment travailler, parce que je prends des trains, je vais dans des librairies parler de mon livre, Kolkhoz, tout ça. Et donc, c'est très agréable d'avoir ces livres de Kapuscinski avec moi, et ce petit os à ronger d'écrire une sorte de petit essai à son sujet. Mais là, oui, c'est une espèce... Je suis désolé d'avoir un enthousiasme aussi spécialisé, corporatif. Je pourrais vous parler des petits oiseaux, des arbres, choses comme ça. Mais en réalité, moi, ce qui m'enthousiasme, c'est les livres, c'est les phrases, c'est des choses comme ça. Et là, tout de suite, Kapuscinski, que pourtant je connaissais très bien, là, je replonge dedans et je suis enthousiasmé, voilà.
Non, mais ça me réjouit, puisque moi, j'ai le souvenir d'un texte sur mai 68... Et je crois que c'est le seul qui avait dézingué mai 68 en le tournant en ridicule, en disant que tout le monde se prenait au sérieux et avait idéalisé la chose par la suite, mais qu'en fait, quand on regardait mai 68 en direct, c'était parfaitement grotesque.
Alors, j'ai pas lu ça, figurez-vous.
C'est très rigolo. Et je ne dis pas que je suis d'accord, évidemment, je suis d'une neutralité implacable. Votre sœur Nathalie, Emmanuel Carrère, vous a décrit dans une rédaction lorsque vous étiez enfant, ainsi, mon frère est très sérieux, il ne fait jamais de bêtises, il lit tout le temps des livres de grands. Êtes-vous vraiment sérieux?
Enfin, vous voyez, je viens d'en donner la démonstration. Je viens de vous montrer que je lis tout le temps des livres de grands et que de ce point de vue-là, j'ai pas beaucoup évolué.
Mais vous êtes
depuis
changeant.
Mon enfance. En fait, je pense que si, je suis assez sérieux. Je suis très. je suis de bonne volonté, quoi. J'ai tendance à penser que, bien sûr, je peux aimer ça, ça je peux rire, trouver des choses drôles, j'espère faire preuve d'humour, mais au fond, je prends la vie sérieusement, en ce sens, je fais partie des gens. C'est plutôt une chance qu'autre chose, mais qui pense que la vie peut être un processus d'amélioration, qu'on est là pour s'améliorer, pour devenir un peu mieux, ce qui ne veut pas seulement dire plus gentil, même si ça inclut ça, mais aussi un peu moins ignorant, en savoir un tout petit peu plus sur le monde, avoir des vues un tout petit peu plus larges, des vues un tout petit peu plus amples, vous savez, penser un peu plus, comme disent les gens, les anglo-saxons, out of the box, sortir de la boîte un petit peu. Et pour moi, c'est ça le but du truc. Et évidemment, à ça, ça suppose un certain esprit de sérieux, il faut bien dire. Non, je suis pas un super joyeux de riz, quoi.
Mais vous avez quand même, vous recherchez l'amusement. Est-ce que vous vous prenez au sérieux?
Vous connaissez quelqu'un qui dit « Ah, moi, je me prends au sérieux ?» Non, tout le monde dit « Je me prends pas au sérieux.
Ouais, »
Tout le monde dit
«
Récemment, quelqu'un de très important dont je ne peux pas citer le nom dit « Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se met en avant.
» Tant de noms me viennent.
Tant de noms, je vous dirai après, si vous voulez. Non, personne n'a envie de se prendre au sérieux, j'espère que non, mais en même temps, je fais les choses sérieusement. Puis je fais un peu que ça.
Ou avec application.
Avec application,
parce qu'avec de l'humour, quand même.
Tout à fait. Vous y tenez beaucoup à votre humour, non mais c'est
mais
vrai.
Mais non, mais c'est parce que c'est j'ai vrai, quand même peux... souri en lisant Cole Cause à certains endroits.
J'espère que c'est drôle
vous
aussi.
Vous en faites preuve, mais là oui, c'est j'espère. Drôle aussi. Est-il vrai que votre premier rêve, c'était d'être publié chez Marabout?
Oui, je ne sais pas si Marabout est encore très familier, si, mais parce que la collection Marabout publiait des auteurs et de science-fiction et fantastique, du type de Jean Rey, d'auteurs comme ça, que j'adorais ça. Et même, il existait un prix Jean Rey qu'avait obtenu un écrivain que je mets beaucoup de la maison POL, qui s'appelle René Belletto. Et je veux dire, à vrai dire, il ne me semblait pas qu'il existe de distinction littéraire plus prestigieuse que le prix Jean Rey, que je n'ai pas eu.
Et ce manuscrit a été perdu, c'était un manuscrit de nouvelles fantastiques.
Oui. Oui, absolument. Je pense que ça vaut mieux pour tout le monde, mais effectivement, j'avais ce truc que j'ai envoyé chez Marabout, c'est en Belgique, c'est à Verviers, qui est aujourd'hui un terreau de djihadistes, essentiellement, mais tout ce qui est le long du canal de Charleroi. J'ai pas mal bossé sur le djihadisme à un moment, et donc cette association du djihadisme et des éditions Marabout a quelque chose d'un peu mélancolique.
Oui, on pourrait employer d'autres adjectifs, mais vous avez été chroniqueur judiciaire.
Le suis toujours.
Vous l'êtes toujours, puisque vous avez couvert les procès des attentats.
Je suis chroniqueur judiciaire depuis en fait 40 ans.
Vous n'avez jamais cessé donc?
J'ai jamais cessé. J'ai commencé il y a pratiquement 40 ans à couvrir des petits procès d'assises où personne n'allait, quoi. Il n'y avait pas de journaliste et qui étaient toujours des histoires passionnantes. Et puis j'ai fait un grand procès d'assises qui était l'affaire Roman, à partir de quoi j'ai écrit L'Adversaire. Et ça, c'était un de ces très très grands procès que, voilà, pour les chroniqueurs judiciaires, ils disent qu'il y en a 4 ou 5 dans une carrière.
Et puis vous l'avez rencontré, comme vous étiez comme Truman Capote.
Et puis j'ai fait le procès des attentats, qui était aussi quelque chose de gigantesque.
Alors ma question est la suivante, oui. Emmanuel Carrère, justement, puisque vous avez brassé les ténèbres de l'humanité de très près, pensez-vous que l'humanité évolue ou reste fondamentalement la même, mais qu'on voit plus sa noirceur à cause des réseaux sociaux et des médias qui se multiplient? Avons-nous changé?
Moi, je suis pessimiste par tempérament, donc il y a des chances que je vous dise qu'on a changé, que si on a changé, c'est pas en bien, et que ce que vous venez de dire, la description que vous venez de faire, me paraît assez juste. C'est-à-dire que la noirceur humaine universelle et éternelle est multipliée, diffractée certainement par les réseaux sociaux. Là, je n'hésite pas à tenir ce discours de scrogneugneux.
Mais ça ne veut pas dire qu'elle a augmenté, elle, en volume? Est-ce que l'homme empire?
Je n'ai pas d'avis là-dessus.
Bon, j'accepte.
La 20e heure. Eva Bester. sur France Inter.
Emmanuel Carrère, vous venez de faire paraître Cold Cause chez POL, dans lequel vous revenez sur vos rapports compliqués avec votre mère, Hélène Carrère d'Ancos, née Zourabichvili du nom de son père géorgien, est morte en 2023. Vous avez commencé à écrire ce récit dans les 10 jours qui ont suivi sa mort. Vous dites que vous avez été triste, mais que l'admiration pour sa mort a pris le dessus.
Ma mère a eu une mort vraiment impressionnante de dignité, de tenue, une espèce de stoïcisme quasiment romain. Elle nous a annoncé à nous, ses enfants, en pleine vacances, que demain elle rentrait dans un centre de soins palliatifs. On dit, mais tu es malade? Oui, j'ai un cancer, je vais mourir. Et ça a duré 10 jours, elle était malade depuis 6 mois, quelque chose comme ça. Et elle a été... Très impressionnante. Elle disait, je suis prête, je suis rentrée dans le couloir, maintenant faut avancer. Et le fait est que, je dirais pas les petitesses, c'était pas quelqu'un qui avait, la petitesse n'était pas son fort, mais disons, allez, tout ce qui fait qu'on n'est pas très bien, quoi. Tout ça, dans la lumière de la mort, a été... s'est dissipé, il n'y avait plus que ce qui était le meilleur d'elle, quoi, cette espèce de... Et au fond, c'est vrai que le chagrin a été très allégé par l'admiration, et je me suis mis à écrire, à raconter sa mort en temps réel, c'est même pas dans les 10 jours, en ce sens de 10 jours plus tard. Là, j'avais vraiment l'impression d'assister à quelque chose qui méritait d'être raconté, que somme toute il m'incombait de le faire. J'ai vraiment tenu une espèce de journal de la mort de ma mère.
D'ailleurs, vous dites que vous avez ressenti une paix assez inédite en écrivant ce récit, que vous aviez ressenti aussi pendant l'écriture de d'autres vies que la mienne, puisque c'est à partir de ce récit que vous soumettiez les manuscrits aux gens impliqués dedans, ce que vous ne faisiez pas avant.
Ce que je n'ai pas davantage fait après, hein. Je l'ai fait dans d'autres vies que la mienne, je l'ai pas fait systématiquement. Là, je l'ai fait avec mes sœurs et mon oncle, qui étaient les principales personnes, disons, concernées, de près.
Alors, quel est votre rapport à la culpabilité? Bon, question qu'on a dû vous poser 100 fois. Et avez-vous peur du fantôme de votre mère?
Alors, je suis très enclin à la culpabilité, et là, pas du tout. Ce qui est paradoxal,
car vous montrez les zones d'ombre.
Ce qui est paradoxal, c'est que je pense qu'une partie de ce que je raconte là, ça n'aurait pas du tout enchanté ma mère, que je le raconte pas davantage mon père, mais que ça faisait partie du portrait et que le portrait leur aurait convenu, je pense. C'est-à-dire qu'il y a je sais pas, c'est quelque chose qui est on disait autrefois, dans des temps vraiment révolus, que quand que quelqu'un qui mourait se présentait devant Saint-Pierre, qu'il avait à lui montrer qu'il avait été, ce qu'il y avait eu de meilleur de lui, et qui faisait que même s'il avait été un pauvre type médiocre, un peu méchant, un peu tout ça, il avait ôté aussi ça qui méritait qu'il entre au paradis. Et j'ai l'impression d'avoir un peu montrer ça de mes parents, et que c'est comme si on est très emphatique, ça s'appelle essayer de montrer quelque chose de leur âme, quoi, voilà.
Vous l'aviez blessé avec la publication d'un roman russe, puisque vous avez révélé dedans que son père était collabo, le père géorgien. Et puis, à un moment, vous racontez un très joli moment dans Cold Cause où elle vous dit des années plus tard, alors que vous êtes resté à distance des années aussi à cause de cela, tu as bien fait d'écrire ce livre.
Oui, elle m'a dit ça quelques années après, à sa façon, c'est-à-dire que Dieu sait qu'il n'y a pas eu d'épanchement. Elle a dit ça quasiment entre deux portes, sans du tout expliquer. Je ne sais pas, au fond, qu'est-ce que ça voulait dire? Peut-être que quelque chose avait été purgé, peut-être aussi, je pense que la terrible inquiétude, la terreur même que ça lui inspirait, que je raconte cette histoire du grand-père collabo, qui a rien de monstrueux tout de même. Je veux dire, d'abord, il n'était pas nazi, il n'était pas pour la Gestapo, il était traducteur, il était interprète, il a travaillé pour les Allemands, Il avait même été, les autorités de Bordeaux lui avaient donné une espèce de sauf-conduit en disant oui, ça va, il n'y a pas de problème. Au fond, il a joué de grosses malchances, quoi. Mais ma mère, au fond, même devenue la femme importante qu'elle est devenue, était aussi la très jeune fille qui était à la fois incroyablement, enfin, il y a la douleur d'une disparition, qui n'est pas seulement celle d'une mort, mais d'une disparition qui est avec de l'opprobre, avec de la honte. Et tout ça, au fond, elle vivait dans l'idée que si, dans un fantasme délirant, qui était que si on savait ça, eh bien, tout le monde lui tournerait le dos, elle devrait même sans doute quitter l'Académie française, peut-être même s'exiler à l'étranger. Je plaisante pas, mon père m'a dit qu'elle redoutait ça. Elle s'est évidemment aperçue que rien de tel ne se passait, que personne ne lui tournait le dos, que au pire il y avait des gens qui disaient dites donc, il vous malmène un peu votre fils, mais rien de plus. Et peut-être que c'est aussi ça qui l'a un peu soulagé, quoi. Vous savez, quand il y a une espèce d'épée de Damoclès dont on craint toute votre vie qu'elle vous tombe dessus, qu'elle tombe et qu'on s'aperçoit que rien ne se passe, ça allège un petit peu.
Ça peut décevoir certains même.
Ça peut décevoir aussi.
Emmanuel Carrère, au début de votre ouvrage, vous faites une distinction entre les sujets horizontaux, les sujets verticaux, et vous dites qu'à mesure que le temps passe, ce qui vous intéresse le plus, c'est, au lieu de parler de vos amours, de vos amis, c'est de parler de votre famille ou de votre enfance. Pourquoi, à votre avis ? C'est parce que quand on vieillit, on...
Oui, quand je dis horizontaux et verticaux, horizontaux, c'est vraiment les rapports entre les gens de la même génération, qu'ils soient amoureux ou d'amitié. C'est au fond les gens qui font la traversée dans les mêmes eaux, quoi, dans les mêmes... Et verticaux, c'est les rapports entre les générations, entre les ascendants, descendants, parents, enfants. Ouais, je pense que c'est un truc d'âge. Je pense que c'est un moment... De toute manière, je pense que d'arriver à combiner les deux dans un livre, dans une œuvre, dans quelque chose qui essaye de rendre compte de la réalité, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux, quoi, ces deux dimensions-là. C'est sûr que là, c'est un livre plus inscrit dans la verticalité. Et dans la verticalité qui est aussi celle de l'histoire.
Oui, puisque vous abordez plusieurs sujets, l'Union soviétique, la guerre en Ukraine, enfin, je ne dis pas tout.
L'histoire de la Géorgie, enfin, tout oui. Ça, c'est un siècle d'histoire familiale et un siècle d'histoire tout court.
Comment avez-vous fait pour rassembler tous les matériaux ? Vous avez été aidé par votre oncle Nicolas qui avait rédigé ses mémoires, votre père compilait aussi des documents, mais comment avez-vous fait pour faire un tel travail de généalogie ?
Je n'y ai aucun mérite, c'est puisque mon père a passé sa vie à faire de la généalogie, ce dont moi-même et mes sœurs vont penser que c'était une espèce de marotte sympathique, mais on s'en foutait un peu. Et j'ai retrouvé à sa mort des dossiers extrêmement bien organisés, bien tenus, avec des monographies, des photos, des documents légendés, enfin...
Mais pas sur lui.
Non, pas sur lui. Pas sur lui, beaucoup plus sur la famille de sa femme que sur la sienne. Mais c'est la famille de sa femme l'intéressait beaucoup plus que la sienne. À la fois parce qu'il l'aimait et par une sorte de snobisme, parce que c'était une famille étrangère, titrée, romanesque, mêlée à la grande histoire, alors que sa famille, lui, était une famille française, où il n'y a pas énormément de mouvements dans le même géographique. Mais il a fait ça. J'ai trouvé tout ça, je me suis dit, tout ce travail, si j'avais voulu le faire, ça m'aurait pris un temps fou. Mais il était fait, il me l'a légué d'une certaine façon. Donc ça, plus les souvenirs de mon oncle, plus mes souvenirs à moi, plus beaucoup de lectures, plus tous les reportages que j'ai pu faire en Ukraine, en Russie, en Géorgie, moi, de toute manière, j'aime beaucoup brasser. Énormément d'informations. Mais c'est pas une information que j'ai eu énormément de mal à aller chercher. Je me suis pas dit, tiens, il n'y a pas eu un an de travail de documentation. Tout était plus ou moins sur la table.
Ouais, mais il faut l'orchestrer tout de même.
Ah ben ça, c'est du boulot.
Oui.
Ça, c'est du boulot. Mais ce que je veux dire, c'est que le matériau, encore une fois, il était à peu près sur la table.
D'accord. Bon, en tout cas, on découvre dedans un personnage assez épatant. C'est votre mère qui, à la fois, a appris le français en un mois à l'âge de 5 ans, parce qu'elle ne parlait que russe avant, a appris l'allemand à l'âge de 90 ans, c'est ça ?
Se mettait à apprendre l'allemand à 80. Ma mère n'aimait rien qui soit de l'ordre de l'avachissement ni du pur divertissement. Si elle lisait des romans policiers, il fallait que ça soit en anglais pour faire des progrès, quoi. C'était tout était... oui, elle n'aimait pas le confort, tout ça lui était... elle y était hostile.
Et elle dit que dans la famille, on ne tombe pas malade. Alors, quel était son rapport à vous, qui par exemple avez parlé ouvertement de votre bipolarité dans yoga et dans d'autres endroits? Quel était son rapport à cela? Est-ce qu'elle trouvait le jeu que vous employez en écriture haïssable?
Oui, absolument. Ma mère avait horreur de la première personne, qui était... dont j'usais et peut à ses yeux abusait, cela n'empêchait pas que, quel que soit le livre que je publiais, elle dise invariablement « c'était pas tant ». Et n'ajoute rien.
Est-ce que vous êtes senti aimé par elle?
Oui, indéniablement. Non, non, mais... oui, oui, oui. Enfin, j'ai été un enfant, et nous avons été, mes sœurs et moi, des enfants très aimés par une mère non seulement très aimante, mais qui n'avait pas, disons, cette espèce de raideur, de statut du commandeur qu'elle a acquis par la suite. À ce moment-là, c'était une jeune mère tendre, drôle. J'en raconte quelques histoires assez marrantes de,
et puis par la suite,
même si elle s'est, même si nos relations ont été très compliquées, on s'est boxé et tout. Mais c'était sur un fond d'amour. C'était un amour brutal, vache, mais qui ne s'est jamais démenti.
Alors, sa devise était celle de Disraeli, « Never explain, never complain », vous dites que vous êtes l'opposé, à l'opposé de cela. Et il y a tout de même un moment où elle fait un aveu dans une lettre, elle montre une certaine vulnérabilité, une certaine mélancolie qu'on ne pouvait pas soupçonner chez elle. Qu'est-ce qu'on ne peut pas soupçonner chez vous?
Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas soupçonner chez moi? Il faudrait d'abord que je trouve ce que je ne peux pas soupçonner chez moi, parce que généralement...
Vous l'écrivez.
Oui, moi je mets les trucs sur la table. À partir du moment où on a commencé, en plus, on n'arrête plus tellement. Donc, au fond, je ne sais pas très bien.
Et ça, justement, c'est votre oncle, puisqu'il y a la figure qui a le plus compté pour vous, c'est celle de votre oncle Nicolas, et c'est lui qui vous a donné ce goût pour la vérité qui semble un peu accessoire chez votre mère, qui est plus facilement dans le déni, j'ai l'impression.
Non, mais ma mère a eu, pour des raisons qui tiennent encore à l'histo grand-père collabo, tout ça, une espèce de tendance à soit cacher, soit mentir, soit embellir la vérité, ce qu'elle faisait aussi par quelque chose, pour une raison qui était de l'ordre du talent de narration. Elle aimait là-dessus, mais elle était aussi d'une mauvaise foi ahurissante, mais qui pouvait faire rire, enfin, et qui à quoi mon oncle, son jeune frère Nicolas, a toujours opposé une espèce de passion exigeante pour la vérité que d'une certaine manière il m'a légué. C'est drôle, enfin, j'ai l'impression d'avoir été très tiraillé entre ces deux influences, quoi, celle de Nicolas, dont je pense un portrait détaillé et attachant, parce que c'est une, au fond, c'est une des personnes qui me sont le plus chères au monde et qui a des bonnes raisons pour ça. Et au fond, c'est à lui qu'on a menti, c'est à lui que sa sœur a menti. C'était ce qu'on appelle des pieux mensonges, lui dire que son père était en voyage, qu'il reviendrait, lui dire que sa mère, qui était dévorée par un cancer, allait guérir. Au fond, elle a voulu protéger. On sait bien que protéger est assez contre-productif, mais au fond, elle le savait pas.
Et votre père, parce que votre père apparaît, ce n'est pas un livre uniquement sur votre mère, il apparaît comme un homme relégué au fond d'un couloir avec un seul ami, un peu triste, groupi de votre mère, l'aimant bien plus qu'elle ne l'aime, mais elle reste quand même avec lui, donc elle devait l'aimer d'une certaine façon. Il est mort 5 mois après elle.
Et ils ont été mariés 70 ans, ce qui a été un mariage très difficile, très douloureux, qui n'était pas, c'était pas marrant pour les enfants non plus, tout ça. Il n'empêche que, évidemment, enfin là, c'est, on dit que quand les gens passent 70 ans ensemble, ils y trouvent leur compte d'une façon ou d'une autre, quoi. Mais le fait est que oui, plus ma mère était dans la lumière, mon père dans l'ombre, il était très... Mais j'ai été heureux en écrivant ce livre de le... Ben justement, de le faire remonter dans la lumière. Ça a été pour moi la surprise du livre. Et ça m'a rendu très heureux.
Parce que pendant longtemps, l'écriture, pour vous, c'est l'endroit de l'angoisse et de la dépression.
C'est pas du tout le cas de ce livre. Vraiment, c'est un livre qui a été écrit dans la joie, dans une espèce de tranquillité. Et où même la tristesse était tranquille, douce, c'était... J'avais l'impression que c'était bien ce que je faisais là. Parce que bien, je dirais, humainement, moralement, même comme livre, enfin, c'était, je me sentais très bien avec ce livre. Et je continue à me sentir très bien avec ce livre, à être heureux de l'avoir fait, être heureux que des gens qui le lisent l'aiment. Enfin, je suis... Je l'aime beaucoup.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Emmanuel Carrère, vous publiez Kolkhoz chez POL. Votre mère était d'origine russe et géorgienne. Et votre premier séjour en Géorgie eut lieu en 2022. Vous aviez 64 ans grâce à la revue formidable Cometa et à sa rédactrice en chef Léna Mauger. Mais je dois dire, pour être honnête intellectuellement, que depuis plusieurs mois, je collabore aussi à cette revue. Je ne voudrais pas qu'on pense que je sois propagandiste. Parce que je suis évidemment, mais... Ça, je ne dis pas.
Ce que vous êtes, oui, vous avez raison. On l'aime beaucoup, cette revue.
Elle est formidable,
cette revue. Elle est très, très bien. Elle est très, très bien. Il y a des grands reportages.
C'est
il y a
formidable.
Moi, je suis là depuis le premier numéro.
Oui, bah, pas moi, mais je suis arrivée sur le tard. Mais c'est vraiment une revue formidable, je le pense.
Bah oui, la première fois, j'y suis allé. Je suis allé, en fait, grâce à Cometa, qui m'a un peu poussé, je suis allé en Géorgie, où il est tout de même ahurissant que je ne sois jamais allé.
Vous avez quand même une cousine, précisez-le tout de même, c'est
oui,
assez impressionnant.
Ma cousine à ce moment-là, Salomé Zourabichvili, était en outre présidente de la République. Mais même avant qu'il y ait ce motif supplémentaire, j'aurais quand même pu y aller en Géorgie. Je suis tout de même un quart géorgien.
Mais votre mère a tourné le dos à la Géorgie.
Ma mère a tourné le dos. Son père l'avait fait déjà avant. Et au fond, elle a tourné le dos à la Géorgie pour choisir la Russie. Ma mère parlait parfaitement le russe, mais je dirais qu'elle était bilingue. Elle rêvait en russe aussi.
Elle ne l'a pas transmis.
Bah, hélas, non. Et elle ne parlait pas un mot de géorgien, alors que chez les cousins, Zourabichvili, puisque Zourabichvili on parlait géorgien et pas russe. La cousine Salomé Zourabichvili, qui s'est trouvée à un moment à négocier avec Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, a dit « je ne parle pas russe », ce qui a laissé Lavrov pantois. Normalement, pour lui, un géorgien, ça parle russe. Et il y a évidemment, entre Géorgie et Russie, un rapport de colonisateur à colonisé. Et mon grand-père, ma mère, ont choisi la civilisation, la langue du colonisateur. L'autre côté étant la langue du colonisé, qui est revendiquée avec fierté par la famille géorgienne. Mais tout ça, c'est une histoire compliquée. Et je vais dire, moi, j'étais totalement du côté russe, du côté de la culture russe, du côté de la littérature russe. Et honnêtement, je m'en foutais de la Géorgie, à part qu'on avait de temps en temps chez les cousins, des mariages ou des enterrements, on allait, c'était très sympathique, il y avait des très bons repas avec des plats délicieux, plein d'herbes aromatiques. Mais à part ça, c'était très très loin pour moi. Et le fait est que c'est sans doute lié aussi à la guerre en Ukraine, qui m'a fait voir certains aspects de la Russie sous un autre angle et m'intéresser davantage à ces satellites considérés de haut par les grands Russes qui étaient l'Ukraine ou les peuples du Caucase.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'Uchronie et la dissonance cognitive ? Et vous savez évidemment pourquoi je vous pose cette question.
Alors, l'Uchronie... ce sont toutes les spéculations sur l'histoire si elle s'était passée autrement. C'est-à-dire, si Napoléon avait gagné à Waterloo, si le Christ n'avait pas été crucifié...
Mais n'est-ce pas la définition de la littérature, finalement ?
C'est une définition possible. En tout cas, de la littérature de fiction. Mais Moi, j'ai fait, quand j'étais tout jeune homme, enfin après, j'ai fait un DEA d'histoire à Sciences Po, et donc j'avais 22, 23 ans.
Votre mère enseignait ?
Ou ma mère enseignait, mais j'avais pas affaire à ma mère là-dessus. Et j'avais fait, au fond, j'avais choisi comme sujet en me disant, moi je suis pas, j'y connais, en réalité je suis pas tellement historien, je vais faire un truc où j'en saurais plus que tout mon jury réuni, et j'ai choisi l'Uchronie. Très bien. Sauf que ma mère, m'a dit oui, mais c'est bien amusant, ton histoire c'est bien intéressant, mais t'as l'air de considérer que c'est un truc léger, une fantaisie. En réalité, c'est la base du totalitarisme. Que l'Uchronie, c'est pas seulement, puisque c'est vrai que le totalitarisme ne contrôle pas seulement le présent ni l'avenir, mais contrôle le passé. Peut dire que n'a pas été ce qui a été, peut dire que Trotsky n'a pas existé, peut dire que Beria, qui venait de faire tuer ou envoyer au goulag des millions de Russes, n'avait pas existé, qu'il était dans l'encyclopédie soviétique, remplacé par le détroit de Bering. Tout ça, au fond, il y a cette idée que... Il y a une phrase extraordinaire que je cite, que je ne me lasserai pas de citer, qui est d'un compagnon de Lénine, qui est un vieux bolchevique, qui s'appelait Piatakov, qui dit un vrai bolchevique, si le parti dit que le noir est blanc et que le blanc est noir, doit croire que le noir est blanc et que le blanc est noir. Il dit ça sans aucune espèce d'ironie, et c'est le mantra de l'Union soviétique. Et justement, donc c'est ce qu'on appelle en effet en psychologie la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on doit croire quelque chose qu'on sait faux, mais qu'il est vital de croire, votre survie en dépend. Et il ne s'agit pas seulement de faire semblant, il s'agit de réellement le croire. Et c'est pour ça que l'histoire de l'Union soviétique est tellement vertigineuse. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très content de replonger dans Kapuscinski, parce qu'avec Kapuscinski, il vient tout ce qui... Je sais que si je m'écoutais, je serais encore à relire Solzhenitsyn et Grossman et Chalamov et Evgenia Ginzburg, parce qu'il n'y a rien qui me passionne autant que l'histoire de l'Union soviétique.
Et alors, je précise que justement, votre essai sur l'Uchronie vient d'être réédité sous un nouveau titre,
Uchronie.
Mon cher Laurent, nous avons décidé qu'il était temps de t'initier aux joies et aux tristesses du sexe.
Qu'est-ce que tu as la peau douce ?
Tu découches, quoi, maintenant ? Tu vas nous expliquer ça. Et la jeunesse ? Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, la jeunesse ?
La jeunesse, mon oncle ? Elle s'en fout.
On entend un extrait du Souffle au cœur de Louis Malle, sorti en 1971. Emmanuel Carrère, un jour, on vous a diagnostiqué un souffle au cœur. Ça vous arrangeait parce que vous aimeriez vivre dans la montagne magique de Thomas Mann, enroulé dans un plaid, dans un sanatorium. Mais hélas, un autre cardiologue a dit que ce n'était absolument pas le cas. Vous étiez déçu. Et votre mère a dit, de toute façon, dans la famille, on ne tombe jamais malade. Vous ne tombez jamais malade ?
À vrai dire, je dis ça dans l'arrogance d'une robuste santé à ce jour, mais oui, je suis plutôt ce qui est, à vrai dire, ce qui était le cas de mes parents, lesquels sont quand même arrivés aux âges, ils sont morts à 94 et 93 ans en n'ayant jamais été hospitalisés, si ce n'est pour notre mère pour donner naissance à ses trois enfants. Donc ils avaient ma mère aimait à dire qu'on avait des bons gènes dans la famille.
Oui, mais bon, il y a une plaisanterie à ce sujet.
Elle avait une phrase extraordinaire, typique de ma mère, qui était de dire « Oui, d'accord, mon père, il a été fusillé à la Libération à 46 ans, mais bon. » Et ma mère, si elle n'était pas morte d'un cancer à 52 ans, c'est pas jusqu'à quel âge elle aurait vécu.
Oui, c'est parfait comme démonstration. Alors, dans Kolkhoz, on apprend plein de choses sur vous, Emmanuel Carrère.
Bon, toujours.
Je vais pas parler du clochard au cinéma Le Brady, j'aimerais bien savoir quand même comment vous vous en êtes sorti. Mais on apprend que vous avez fréquenté des divans d'analyse pendant 30 ans, que vous avez été un peu déçu, que l'un de vos surnoms, c'est l'inarrêtable mangeur de harengs. C'est toujours le cas ?
Ah bah, disons, si l'occasion s'en présente, oui, c'était un surnom que m'avait donné un soir de beuverie à Moscou, le très grand historien Simon Sebag Montefiore, et qui a écrit une fabuleuse biographie de Staline, enfin en deux épisodes, dont celui qui raconte la jeunesse de Staline. Et la jeunesse de Staline, c'est un western quand même, parce que Staline était un bandit, un braqueur de banque. Ce ne sont que histoires de braquage, d'embuscade, de pétage de gueule.
Qui était géorgien et qui avait d'ailleurs un surnom à l'époque quand il était voyou.
On le surnommait Soso. On l'a surnommé par la suite aussi Koba.
On apprend aussi que la vie amoureuse avec vous, ce sont les montagnes russes, employez ce mot, et les sables mouvants. Aucun progrès de ce côté-ci ?
J'espère un peu de progrès de ce côté-ci, mais enfin...
Vous l'espérez, mais vous ne l'éprouvez pas. Vous l'espérez, mais vous ne l'éprouvez pas.
Si. Pour le moment, je l'éprouve, oui.
Alors, nous allons découvrir votre choix musical. Appel des oiseaux de Rameau, joué par Grigory Sokolov, c'est votre choix musical, Emmanuel Carrère, et un prétexte pour évoquer la question des titres, ceux de Rameau, ceux de Couperin et les vôtres.
Oui, alors, d'abord, pour moi, la musique, c'est le piano, essentiellement. Je veux dire, j'aime passionnément le piano, je passe ma vie à écouter des pianistes, alors moi, je ne sais pas jouer de piano, je ne sais pas lire la musique, enfin bon, mais j'aime ça. Et alors évidemment on a toujours envie de passer des trucs que peut-être pas la sonate au clair de lune quoi, donc j'adore ce morceau de Rameau, j'adore la façon dont le joue Grigory Sokolov, mais il y a en effet une autre raison, c'est les titres, ces pièces de vous voyez, ça s'appelle Le rappel des oiseaux. Je trouve que Le rappel des oiseaux, c'est un titre miraculeux. Je sais pas comment on trouve ça, Le rappel des oiseaux. Et ils avaient, tant Rameau que Couperin, ils avaient des titres merveilleux. Il y a les tendres plaintes, les ombres errantes. Il y a ce titre prodigieux de Couperin qui est les barricades mystérieuses. Alors, comme c'est plus connu, c'est celui-là que j'ai mis, mais les barricades mystérieuses, on aurait pu le mettre. Quel titre extraordinaire, les barricades mystérieuses. Et, ouais, c'est pour dire que j'aime le piano, j'aime les titres aussi. J'aime tellement
SAS.
Les titres que je mets que maintenant je mets plein de titres dans mon livre. Là,
j'ai jamais vu autant de titres.
Il y en a 228, je crois. Puisque maintenant je fais les livres par espèces de petites unités comme ça, qui sont des petits blocs sans alinéa, compacts, plus ou moins de durée variable. Ça peut être 5 lignes, ça peut être 5 pages, mais c'est toujours comme ça. Et chacun est titré. Et j'adore ça, mettre ces titres. Et j'aime bien l'idée qu'elle... Alors, les titres des livres, évidemment, c'est très... Celui-là, il m'a donné du fil à retordre, parce que le Kolkhoz, à un moment, des moments où c'est arrivé, c'était évident, je veux dire, il n'y avait plus à discuter.
Je ne vais pas dire ce que ça signifie, parce que tous les journalistes l'ont dit.
Oui.
On sait très vite, hein, en vous disant.
Je n'en menais pas large tant que je ne l'avais pas trouvé. Et un livre sans titre, ça va pas, quoi.
Je suis vivant et vous êtes tous morts, c'est magnifique pour votre essai consacré à Kadic.
C'est bien, et en plus, ça plaide pour dire qu'il n'y a pas que les titres courts qui sont bien. Oui. Maintenant, j'avais fait pour un recueil d'articles, de reportages, de choses comme ça, je l'avais appelé « Il est avantageux d'avoir où elle est ». Et pour quelqu'un qui, comme moi, se flatte d'être bon en titre, c'est épouvantable. C'est vraiment un des plus mauvais titres qu'on puisse imaginer, parce que non seulement c'est très long, mais c'est impossible à retenir. Et en plus, il faut, si on vous interroge là-dessus, il faut expliquer que c'est une phrase du Yi Qing, l'oracle chinois. On commence à expliquer ce que c'est que le Yi Qing et tout le monde est parti. Donc vraiment, c'est mon remords professionnel.
Mais je vous rassure, ce titre ne vous ressemble pas, Emmanuel Carrère.
C'est gentil.
Il n'y a pas d'innocent. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents, mais ça ne dure pas.
Tu es le seul à qui j'oserais proposer une affaire. Classique, sûre, sans risque, si elle est bien faite. Et si elle est mal faite?
Je vous charge de retrouver vos gènes par tous les moyens. Et quoi qu'il vous en coûte.
Vous pensez qu'il va réussir?
Il arrivera. Pour une fois, le gibier est intelligent.
Ce sera de l'ordre de 2 milliards d'anciens francs. Prêt de vente.
Il reste à trouver le tireur d'élite. J'ai connu il y a 4 ou 5 ans un très bon tireur. Un policier.
Il faudra reconnaître les lieux. Ça, ce sera vous.
Alors je suis ravie, Emmanuel Carrère, puisque L'homme D de l'Ukraine Art est un de mes romans préférés, je l'offre à tout le monde, vous avez écrit dessus, et un de mes réalisateurs préférés, Jean-Pierre Melville, et je vous ai demandé une découverte, là on entend un extrait du Cercle Rouge de Melville, que votre père vous avait emmené voir
à l'âge de 13 ans, ou 12 ou 13 ans, je ne sais pas trop.
Et vous avez choisi un livre consacré au tournage du film à faire découvrir aux auditeurs dans le Cercle Rouge de Bernard Stora, publié chez De Noël.
Alors c'est un livre très particulier. Bernard Stora a été assistant sur le film de Melville, donc il y a très longtemps. Et qui est devenu réalisateur, scénariste, tout ça. Et puis un jour, il avait gardé les feuilles de service. Les feuilles de service, c'est un document très particulier. C'est-à-dire, c'est pas le scénario, c'est chaque jour, on prévoit tout ce qui va se passer la veille, donc tout ce qu'il faut, quelles sont les scènes qu'il va falloir tourner, les plans qu'il va falloir tourner, tout le matériel qu'il faut, les voitures, s'il faut 100 figurants pour faire des gendarmes, où on va mettre la cantine pour les 100 figurants, Il se retrouve à la tête d'autant de feuilles de service qu'il y a eu de journées de tournage, je pense une soixantaine, entre 60 et 70, on ne mégotait pas à cette époque-là. Et à partir de ces feuilles de service, qui sont un document où on est en plein dans le concret, dans le cambouis du cinéma, ça a éveillé ses propres souvenirs, et donc c'est un des livres les plus vivants qu'il y ait sur le tournage d'un film. C'est quel film ? C'est-à-dire que je l'ai revu juste après avoir lu ça avec vraiment énormément d'intérêt. Alors le Cercle Rouge, bon, c'est hiératique, il n'y a pas de femme, mais c'est quelque chose hein, quand même. C'est vraiment du très très grand cinéma.
Pas de femme, mais un délirium très mince, assez fabuleux, avec Insectes et Rats.
Avec Yves Montand, oui.
Oui. Il nous reste quelques secondes, alors hélas, Marguerite Yourcenar était en studio, mais je ne pourrais pas lui donner la parole. En revanche, est-ce que vous pouvez donner vos conseils de lecture, puisque vous l'abordez à la fois dans Kolkhoz et vous les avez redonnés à la Maison de la Poésie, 3 livres de Marguerite Yourcenar?
Alors, les grands livres de Marguerite Yourcenar, c'est Les Mémoires d'Adrien, L'œuvre au noir, tout ça, et c'est vachement bien. Mais les 3 livres que moi j'aime le plus, c'est les 3 livres qu'elle a écrits à la fin de sa vie sur sa famille. C'est-à-dire le même genre d'entreprise que la mienne, sauf qu'elle est beaucoup plus ambitieuse puisqu'elle remonte à la préhistoire. C'est Archives du Nord, Souvenirs pieux et Quoi l'éternité. Moi j'adore ces livres.
Mais elle est morte et vous êtes toujours vivant, donc peut-être que vous ferez plus. Et je dis aussi, parce que j'aime bien les recommandations en fin d'émission, que vous trouvez qu'Alphonse Daudet est sous-estimé. Et c'est sur cela qu'on se quitte. Merci beaucoup, Emmanuel Carrère.
Merci, Eva Bester.
Votre livre « Colcause » est paru chez POL et figure dans la sélection de la rentrée littéraire sur France Inter et accessoirement dans la sélection du Goncourt. Le deuxième volume de « Vers le réel, anthologie d'œuvres choisies » est paru chez Gallimard aux éditions Quarto. Votre texte « Le détroit de Bering » a été réédité il y a quelques mois sous le nom d'Uchronie avec une préface inédite. Cette émission.
En revanche, Fromont Jeune et Rissler aîné d'Alphonse Daudet, son plus beau livre est malheureusement épuisé.
Mais on va le trouver, on va le rééditer. Merci à toute l'équipe, à la réalisation Lola Costantini, préparation Céline Villegas, Louise Morfois et Franck Olivard, programmation musicale Juliette L'Orphelin, technique Julien Thévenot. À demain. Thank you.